C'est parce qu'on est uniquement au milieu du guet, il faut aller jusqu'au bout.
In this section called the long-term Une vision view, à long terme. Peter Lynch vous explique ici comment construire un portefeuille d'actions qui maximise les profits et minimise les risques. Il vous apprend quand acheter et vendre ou que faire quand le marché s'effondre. Il analyse le marché boursier aujourd'hui et vous explique tout ce qui a changé.
Serge Halimi, mais alors vous parlez d'un léninisme de marché. Léninisme de marché est souvent... Et vous n'êtes pas le seul, vous faites des comparaisons entre cette avant-garde néolibérale et les techniques, les stratégies des bolcheviques ou des guérillas marxistes ou d'extrême-gauche.
Oui, absolument, parce qu'il y a eu une volonté de la part des néolibéraux de créer les idées qui leur seraient favorables, qui seraient les plus favorables à leur projet. De favoriser dans les universités, de favoriser dans les médias, l'expression d'idées qui seraient favorables à leur projet. Et tout ça n'est pas du tout né du hasard. Vous avez un ministre des Finances américain qui dit dès les années 70, je le cite, « Le monde des affaires doit cesser de subventionner sans réfléchir les collèges et les universités dont les départements d'économie, de sciences politiques et d'histoire sont hostiles au capitalisme. Il faut également cesser d'investir dans les médias qui servent de relais aux opinions anticapitalistes et reporter ces investissements vers des médias favorables à la libre entreprise. »
On est en quelle année, là ?
On est en 1973 ou en 1974. Donc ce sont des gens qui ne laissent rien au hasard. Ils ne cessent de présenter le marché comme un phénomène naturel auquel il faudrait se soumettre. Souvenons-nous de la phrase de Chirac expliquant les licenciements à Villevorde en disant « Les licenciements, c'est la vie. Moi, j'ai connu des maréchaux ferrants, il n'y en a plus. C'est la vie. Ce n'est pas pour autant que le monde a régressé. » Donc, il présente ça comme une situation presque naturelle, alors que c'est le produit d'une démarche très volontariste qui est entreprise à partir des années 40 et qui se déploie avec beaucoup de succès à partir des années 70. Deux ans avant l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir, vous avez un des leaders de la droite américaine qui dit même, reprenant donc cette métaphore du volontarisme léniniste, du bolchevisme de marché, qui dit, je le cite, « Nous devons suivre l'exemple des communistes. Lorsqu'ils pénètrent dans un pays où les principales institutions, les médias, les organisations religieuses et les entreprises leur sont hostiles, ils installent une structure de guérilla qui leur permet de faire passer leur information. Nous sommes ici dans la même situation. Les principaux instruments institutionnels sont contre nous. CBS, l'université Harvard, le New York Times, Pepsi-Cola et le Congrès. » Il y a une vision qui est presque paranoïaque.
Pepsi-Cola est une institution.
Non seulement c'est une institution, mais c'est une institution hostile au capitalisme. Oui. Et c'est en quelque sorte, c'est presque le charme et ce qu'il y a d'effrayant chez ces gens-là, c'est qu'ils en veulent toujours davantage. Ils se présentent toujours dans la situation d'assiégés. Si vous voulez, ils contrôlent tout à l'heure actuelle, aux États-Unis et dans bon nombre de pays.
Mais Serge, la différence quand même, c'est que là, on se réfère à des époques où on avait deux hégémonies. On avait le monde soviétique et le monde libre. C'est le monde libre qui est en train de parler. Et dans ce que vous venez de lire, on sent la religion de l'anticommunisme.
Il y a la religion de l'anticommunisme qui a pour logique, pour corollaire tout à fait logique, cette idée que le capitalisme est en train de se rapprocher du socialisme et du communisme en s'imposant des contraintes croissantes. Et c'est toute la thématique de Hayek et de la route de la servitude, c'est on va vers la convergence des systèmes parce que ce qu'il y avait de capitaliste dans le capitalisme est en train de disparaître et que ce système capitaliste s'impose des contraintes qui sont de plus en plus proches de celles qui existent déjà dans les pays communistes. Et cette convergence, nous n'en voulons pas, dit Hayek, disent Reagan, disent Thatcher. Et parce que nous n'en voulons pas, il faut que nous retournions le capitalisme à sa vérité d'origine avant que les réglementations n'interviennent. Mais il faut rappeler que ces réglementations sont elles-mêmes le produit de luttes sociales. Elles n'ont jamais été acceptées par le capitalisme comme ça, par un effet de sa générosité ou de sa charité. Lorsque les programmes sociaux ont été lancés, y compris par Bismarck en Allemagne, c'était pour couper l'herbe sous le pied des socialistes. En se disant, on ne peut pas accepter un appauvrissement croissant de la population parce que si ça intervient, on risque une révolution sociale et une révolution politique. À partir du moment où la crainte de cette révolution sociale et de cette révolution politique disparaît, les capitalistes estiment qu'ils n'ont plus de raison de faire les concessions qu'ils acceptaient dans les années 50 et dans les années 60. Et il est évident qu'à partir du moment où l'Union soviétique elle-même disparaît, ce qu'on appelait le bloc socialiste, il y a ce sentiment qu'il n'y a plus qu'un mode de gestion possible, qui est le mode capitaliste, et que donc la disparition de l'Union soviétique valide le désir des ultralibéraux d'aller jusqu'au bout.
Et là, ça les propulse là ça, où ils